J'ai remis mon apparat de retraité. Vous avez peut-être, pour quelques-uns, remarqué que j'ai inversé l'ordre des rencontres de cet après-midi. Et c'est plutôt avec les jeunes que j'ai abordé ce thème « Recherche top modèle ». Plutôt de façon thématique que de manière textuelle. Et il m'a semblé plus utile de faire donc ce changement et d'aborder en fin de journée cette question. Pourquoi obéir? Pourquoi obéir? Nous voulons prier et puis nous allons faire lecture de la parole. Par ton esprit, Seigneur, nous te demandons de nous renouveler, de nous rendre en mesure d'écouter et d'écouter ta voix, que nous soyons sensibles à ta parole et que nous ayons également le courage des changements qu'il nous faut opérer pour que notre vie soit toujours davantage conforme à cette parole. Tu connais parfois les résistances de notre cœur, les craintes, les doutes, la crainte parfois du « qu'en dira-t-on si nous changeons de comportement ?» Mais tu nous appelles à être des citoyens du ciel et de vivre ici-bas dans l'anticipation de vivre dans l'éternité avec toi. Tu es en train de mettre les dernières touches à l'œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies. Tu vas l'accomplir, l'achever lors de la consommation de toutes choses. Et en abordant ce sujet de l'obéissance, nous te demandons de trouver en nous des volontés prêtes à se plier à la tienne pour la gloire de ton nom. Amen. Nous lisons au chapitre 2 des Philippiens, verset 4. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez tous votre Bible avec vous. Vous devriez montrer l'exemple aux plus jeunes à cet égard. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres et en ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ainsi, je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi. Réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. Il s'est rendu obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi, comme vous avez toujours obéi, continuons dans l'obéissance. Pourquoi obéir? Dans ce court passage que nous avons lu, il y a plusieurs facteurs de motivation qui nous sont relatés. J'aimerais en citer trois, les commenter. Pourquoi sommes-nous appelés à l'obéissance? En tout premier lieu, et je vous donne les trois idées principales, en tout premier lieu, Paul nous dit là, à la fin du verset 13, que l'obéissance doit être motivée en tout premier lieu pour son plaisir, pour lui plaire. À l'encontre du légalisme qui parfois est engagé par autosatisfaction pour me faire plaisir, pour me donner le sentiment que j'ai fait ma part et que j'atteins le niveau que je dois atteindre pour me satisfaire et parfois satisfaire aux autres, au lieu d'obéir finalement pour plaire aux hommes. L'obéissance dans l'Écriture doit être engagée pour plaire à Dieu. En second lieu, à partir du verset 14, l'obéissance doit être motivée parce que nous avons envie d'authentifier l'Évangile. Et en troisième lieu, ce qui peut vous paraître peut-être plus étrange, mais à partir donc du verset 16 au milieu, nous obéissons, et là il faut que je l'explique après, pour valider le ministère de ce que Dieu a placé au-dessus de nous dans l'Église. Nous obéissons pour plaire à Dieu. Nous obéissons pour authentifier l'Évangile. Et nous obéissons pour valider le ministère de ceux que Dieu a placés au-dessus de nous dans l'Église. Nous allons donc réfléchir à ces différentes idées. Mais en tout premier lieu, cette idée, l'obéissance doit être engagée pour plaire à Dieu. Ce texte, à partir du verset 12, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son plaisir. Travaillez à votre salut. Mettez votre salut en action. Mettez en œuvre votre salut. Mais cela ne va-t-il pas à l'encontre de tout ce que Paul nous enseigne par ailleurs? Parce que finalement, les œuvres, est-ce qu'on doit mériter le salut? Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, dit, quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Mais ici, est-ce qu'il se contredit? Travaillez à votre salut. D'abord, illustration. Vous savez, depuis maintenant 45 ans, il nous est arrivé avec Sylvia d'accompagner passablement de jeunes qui se préparent au mariage, et nous faisons donc toute une préparation au mariage, et le plus souvent, nous officions par la suite au mariage. Et maintenant, il y a pas mal de couples que nous avons pu accompagner. Et lorsque je les rencontre, je leur dis, travaillez à votre mariage. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mariés, ils le sont. Mais il faut qu'ils continuent à s'investir, à travailler à leur mariage pour que leur mariage puisse progresser. Et c'est ce que Paul dit ici. Travaillez à votre salut. Un mot d'explication. Le mot salut ne doit pas être compris uniquement en termes de conversion. T'es-tu converti? Es-tu sauvé? Le mot salut dans l'Écriture couvre toute la vie chrétienne, depuis le début jusqu'à la fin. Je suis sauvé. Mais lors de la consommation de toutes choses, je serai sauvé. Le salut couvre toute la vie chrétienne. Paul dit exactement la même chose dans la lettre précédente, lorsqu'il dit aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 7, « En lui nous avons la rédemption, nous sommes rachetés, mais au chapitre 4 et au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de notre rédemption. Je suis racheté, je serai racheté. Je suis sauvé, mais le processus de salut est en cours. Je ne peux perdre mon salut, j'ai l'assurance de mon salut, mais mon salut, finalement, couvre tout mon cheminement chrétien. Et c'est pour cela que dit Paul, travaillez à ce processus de salut. Mais, Paul dit dans ce texte, que c'est lui qui produit en nous, verset 13, le vouloir et le faire. Vous avez remarqué l'ordre? Le vouloir et le faire. La pensée précède les actes. C'est lui donc qui crée en nous le vouloir en alimentant notre pensée avec la parole de Dieu, en alimentant notre réflexion, et dans la mesure où nous alimentons sainement notre réflexion, nous avons des actes qui s'ensuivent. Et c'est Dieu, lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Finalement, travailler à notre salut n'est possible que parce que Dieu travaille en nous. Je ne peux travailler à mon salut que dans la mesure où Dieu travaille en moi. Et nous avons besoin donc, et c'est ce que dit Paul ailleurs dans ce livre où il nous exhorte finalement au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de... Réveillez-vous. Vos pensées. Autrement dit, nous devrions alimenter notre pensée pour que nos actes en découlent. Mais pour alimenter notre pensée, c'est Dieu qui l'alimente par la parole. Et c'est ce qu'il dit ici. Nous devrions donc méditer sur tout ce qui est honorable, juste, pur, et ainsi de suite. Nous ne pouvons travailler à notre salut que dans la mesure où Dieu travaille en nous. Nous travaillons à notre salut parce que Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir. Mais autre chose dans ce texte, Paul dit que travailler à votre salut n'est pas adressé à des individus. Je ne suis pas en train de dire cet après-midi, Katrina, Francis, Clive et je ne sais qui, travaille à ton salut. Le texte est un texte collectif. C'est un texte qui s'adresse à l'Église. C'est un texte communautaire. Paul est en train de dire, vous, Église de Christ, travaillez à votre salut. Le salut couvre toute la vie chrétienne depuis la conversion jusqu'à la consommation de toutes choses sans retour. Et c'est un projet communautaire. Et voilà la question que j'aimerais vous poser. Vous, dans l'Église que vous fréquentez, est-ce que vous avez comme projet de réfléchir à partir de l'Écriture comment faire en sorte que l'Évangile puisse transformer davantage notre pensée, transformer nos actes et ainsi produire une Église qui progressivement ressemble de plus en plus à Christ? C'est un projet communautaire. Et en tant qu'Église, nous participons à ce projet pour son plaisir. L'obéissance, c'est finalement permettre à Dieu de transformer notre pensée et nos actes. C'est permettre à l'Évangile de nous transformer communautairement, collectivement, pour son plaisir. Et ça change tout. Je n'obéis pas tout simplement à cause des personnes qui me regardent ici-bas sur terre. Je n'obéis pas pour plaire aux hommes. Ma motivation doit être d'obéir pour plaire à Dieu. C'est comme dans le contexte du couple. Et c'est pour cela que Paul, dans l'Épître aux Éphésiens en particulier, utilise l'exemple du couple. Parce que finalement, nous sommes dans la révélation progressive, la théologie biblique. Et même si, dans l'Ancien Testament, le mariage est proposé comme étant la solution de Dieu pour répondre à la solitude, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage est également proposé en vue de la procréation. Le mariage est également proposé pour notre plaisir. Mais Paul, il transforme le mariage dans l'intention originelle de Dieu. Le mariage est une illustration sur planète Terre de ce qu'est la relation entre Dieu et son peuple, Christ et son Église. Nos mariages, chers frères et sœurs, doivent refléter la nature de la relation entre Christ et l'Église. Et dans le mariage, nous travaillons en tant que couple, n'est-ce pas? Non pour notre plaisir, mais pour le plaisir de l'autre. Et ça, c'est un chemin, c'est un processus. On ne le fait pas depuis le premier jour du mariage. Ce n'est pas le programme lors du voyage des noces. Mais progressivement, nous nous rendons compte que pour qu'une vie de couple puisse s'approfondir, s'enrichir, nous devrions viser le plaisir de l'autre. C'est pourquoi, comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut, parce que c'est un processus. Mais c'est Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui va alimenter votre pensée et permettre à ce que les actes soient transformés. Mais c'est un projet communautaire et le tout, c'est pour son plaisir. Ça me libère. Certes, je ne suis pas là pour déplaire aux hommes. Je ne suis pas là pour offenser les hommes. Mais je suis d'abord là pour plaire à Dieu. En deuxième lieu, dans le texte, Paul nous dit que nous obéissons pour authentifier l'Évangile. Je relis le texte, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » On reviendra là-dessus. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Nous ne pouvons pas entrer dans tout le détail de ce texte, mais la question d'authentifier l'Évangile est liée à une relation. Nous sommes appelés dans ce passage à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, maintenant, il y a quantité de colloques sur l'évangélisation. Comment faire de l'évangélisation? Comment atteindre la jeunesse postmoderne? Comment atteindre telle ou telle couche de la société? Il y a beaucoup, beaucoup de projets et de méthodologies par rapport à l'évangélisation. Paul dit, l'évangélisation, c'est en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions montrer qui est le Père et comment est le Père. Moi, je suis un poteau indicateur vers Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, mon rôle dans le témoignage, c'est de montrer qui est Dieu et comment est Dieu. Qu'est-ce qui est plus important que cela? Montrer qui est Dieu, le Père, et comment est un Père. Moi, je n'ai jamais eu de Père. Mon père est décédé juste avant ma naissance, pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai jamais donc connu un père, mais Dieu, dans sa grâce, m'a donné quantité d'hommes, dont j'ai parlé avec les jeunes l'un ou l'autre, quantité d'hommes qui ont été pour moi des pères de substitution. Mais j'ai vraiment compris ce qu'est un père lorsqu'avec Sylvia, nous avons eu nos enfants. J'ai compris le rôle d'un père. Et en tant qu'enfant, enfant de Dieu, je dois montrer qui est le Père, comment est le Père. Quand j'étais enfant, 9 ans, j'ai contracté une tuberculose de la hanche gauche. Et pendant 2 ans, je me suis trouvé à l'hôpital avec donc un genre de cadre, avec les poids dessus, et ainsi de suite. À l'époque, on était traité pour la tuberculose à la hanche osseuse, on était traité avec des piqûres, pénicilline et streptomycine à l'époque. Et tous les jours, j'avais 4 piqûres, j'avais 9 ans, hein, 4 piqûres, 2 de pénicilline, 2 de streptomycine. Avec la piqûre de streptomycine, il fallait boire un médicament pour permettre à ce que finalement la piqûre agisse. Et ce médicament, c'était exécrable, c'était l'horreur. Et 2 fois par jour, je vomissais. C'était pénible. Et après 3 mois, je me suis révolté. J'ai dit, je n'en peux plus. Il faut savoir, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, les visites à l'hôpital n'étaient pas les visites quotidiennes. On avait le droit aux visites 2 fois par semaine, Et du fait que l'hôpital où je me trouvais était à 30 kilomètres de la maison, ma mère ne venait que le dimanche, une visite par semaine. Et moi, j'étais là avec streptomycine et médicaments. Et un jour, je dis, fini. Je n'en veux plus. Ma mère est venue, jour de visite. Et puis, elle a essayé de m'encourager et dire, mais c'est pour ton bien, si tu prends, tu vas guérir, et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez le discours, hein. Je peux pas. Je peux plus. Je peux plus. Elle dit, mais écoute, si tu ne veux pas guérir, moi je vais rentrer à la maison. Puis elle est partie. Elle n'était pas plus vite sortie de la porte, là. Vous voyez la porte, là? C'était là. J'ai tout de suite appelé l'infirmière. J'ai pris le médicament, parce que je ne croyais pas que ma mère était sérieuse. J'ai pris le médicament, j'ai bu, et j'ai dit à l'infirmière, va chercher ma mère. Elle a couru après ma mère jusqu'à l'arrêt de bus. Elle lui a dit, il a pris son médicament. Et ma mère lui a dit, dis-lui, je serai là dimanche prochain. J'ai appris ce qu'est une mère. J'ai appris ce qu'est l'amour sévère. Et notre rôle dans le témoignage en tant que chrétien, c'est de montrer qui est ce Père. Saint, pur, juste, un Père qui est en colère et en colère justifiée contre toute iniquité. Mais un Père qui a tant aimé le monde que dès avant la fondation du monde, il a désigné son Fils comme Sauveur, Rédempteur du monde. Et sur cette croix, il a fait déferler sur son Fils toute sa juste colère contre le péché, afin qu'il puisse par la suite me regarder et dire « juste ». Le témoignage, authentifier l'Évangile, ce n'est pas finalement notre petit débit. C'est dire, c'est lui, le Père. Voilà comment il est, saint, juste, mais aimant, jusqu'à sacrifier son Fils. Mais, dans ce texte, Paul introduit cette notion en disant « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous, vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Autrement dit, notre manière de vivre aussi nos relations entre nous. Non seulement je suis un poteau indicateur vers le Père, mais je dois, de par la qualité de nos relations entre nous, donner envie aux autres. Et Paul se sert finalement d'une introduction en matière, faites tout sans murmure ni hésitation, qui nous rappelle tout de suite l'Ancien Testament. Israël dans le désert, qui murmure, qui se plaint, qui revendique. Et finalement, cette génération-là est morte dans le désert et n'a pas vu le pays de la promesse. Une génération de ceux qui murmurent, qui revendiquent. Et si vous lisez, finalement, dans les textes de l'Ancien Testament, Exode, oh, je vais vous les lire, je vais vous les lire. Exode, d'abord au chapitre 15, où au verset 24, nous lisons « Le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous ?» Vous connaissez le récit. Un tout petit peu plus loin, chapitre 16, nous arrivons donc à une lecture similaire et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et pourtant, au verset 7, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Certes, ils ont murmuré contre Moïse. Donne-nous à boire, donne-nous à manger. Mais en dernier ressort, ces revendications, ces murmures, Dieu dit, ils ont murmuré contre moi. Et vous, dans l'Église, murmures, revendications? Francis nous a lu un texte particulièrement poignant ce matin sur la rumeur. Murmure, revendication. Nous avons le droit dans l'Église de poser des questions. Nous avons le droit de ne pas forcément être d'accord avec tous les choix et décisions qui sont prises. Nous avons le droit d'aller auprès des anciens, des pasteurs, et de leur poser des questions. Mais à un moment donné, ces hommes que Dieu a placés là sont chargés de conduire le troupeau et parfois ils sont chargés de trancher, de décider. Et ils ne décident pas forcément dans le sens de nos questions ou dans le sens de nos idées. Deuxième texte de Francis cet après-midi. Et lorsque cela ne va pas comme nous en veut, on peut facilement sombrer dans les murmures, dans les revendications, dans les critiques, dans la médisance. Et lorsque nous avons perdu le respect pour ceux que Dieu a placés au-dessus de nous dans le Seigneur et que nous sombrons dans ce type de revendications et de murmures, Dieu dit, moi j'ai placé ces personnes-là, c'est contre moi que vous murmurez. Nous obéissons parce que nous voulons authentifier l'Évangile. Et pour authentifier l'Évangile, nous sommes un poteau indicateur vers le Père. Qui est et comment est le Père? Et en même temps, nous avons dans le contexte de l'Église un comportement qui nous permet de dire les choses avec liberté, franchise, transparence et intégrité. Mais lorsque des décisions sont prises, nous refusons murmures et revendications. Et Paul termine cette exhortation en mettant ensemble notre double responsabilité. Car il dit à la fin donc du verset 15, « Cette génération dans laquelle ou parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux en portant la parole de vie. » Et Paul met ensemble le message et le messager. C'est ce que j'ai tenté de dire aux jeunes cet après-midi. Il faut absolument que l'on se rende compte qu'il doit y avoir une cohérence entre le message et le messager. Nous devrions briller comme des flambeaux, mais nous portons la parole, parole de vie. Oh, Jésus dit la même chose, n'est-ce pas, à ses disciples. Et je perds mes notes. Jésus dit la même chose à ses disciples lorsqu'il dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par votre amour les uns pour les autres. Pourquoi obéir? Parce que je veux plaire à Dieu. Pourquoi obéir? Parce que dans un monde perdu, je veux authentifier l'Évangile. Je veux démontrer que l'Évangile est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est d'abord de présenter les personnes au Père et ensuite de démontrer la transformation que cela opère dans ma vie, dans mes rapports avec les autres frères et sœurs dans la communauté. Et en dernier lieu, il y a ici donc cette idée qui est peut-être un peu plus étrange. Pourquoi obéir? Pour valider le ministère de ce que Dieu a placé au-dessus de nous, dans le Seigneur. Je pourrais me glorifier, dit-il, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Tiens, Ça va un peu à l'encontre de notre idée démesurée de ce qu'est l'humilité. Paul dit aux Corinthiens, « Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. » En écrivant aux Thessaloniciens, « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ?» Paul n'est pas en train de se vanter de ses exploits, mais Paul est en train de se vanter de ce que Dieu a fait par son intermédiaire. Et il est légitime que les serviteurs de Dieu, que Dieu place au milieu de nous, puissent effectivement éprouver de par notre manière de nous comporter, il est légitime qu'ils puissent éprouver de la joie. Bien sûr, il y a des limites. Lorsqu'il y a erreur doctrinale, ou lorsqu'il y a faute morale, un comportement répréhensible, bien sûr, à ce moment-là, nous ne sommes pas appelés à suivre. Mais dans la mesure où il n'y a pas d'erreur doctrinale, et dans la mesure où il n'y a pas de faute morale, nous sommes appelés à respecter ce que Dieu a placé au milieu de nous. Question que j'aimerais vous poser. Membre d'église, vous participez depuis longtemps. Est-ce que vous estimez que ceux qui ont charge de l'église, dans votre église, pasteur, ancien, diacre, responsable de jeunes, dames, enfants, est-ce que vous considérez ces personnes comme étant placées là par le Seigneur? Oh, je ne suis pas en train de parler de la manière de choisir ou d'élire. Il y a quantité de manières et de méthodes pour pouvoir parfois mettre en place un pasteur et un ancien. On ne va pas sombrer dans ce débat-là. Mais quelle que soit la méthode dont on se sert, est-ce que nous croyons qu'une fois que ces personnes sont là, ce sont les personnes que Dieu, dans sa grâce, a placées au-dessus de nous, dans le Seigneur? Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous les aimons pour leur œuvre? Encore une fois, je dis, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. On n'est pas appelé non plus à être des marionnettes. Oui, monsieur, non, monsieur, les bénis, oui, oui. On a le droit de poser des questions. Mais nous avons aussi le devoir de la soumission et de l'obéissance. Parce que nous voulons valider leur ministère. Parce que eux, ils doivent rendre des comptes au Seigneur de leur service au milieu de nous. Paul dit dans le texte, très intéressant, il dit que de peur d'avoir œuvré, travaillé, en vain. Ouf. Je pense qu'il y a une chose qui, depuis les années, me hante. C'est l'idée de travailler en vain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Illustration. Nous sommes dans une ville assiégée. Il y a à l'extérieur de la ville un ennemi. Et donc, celui qui a en charge l'armée, il dit à l'ensemble de l'armée dans cette ville assiégée, il faut rester vigilant. Et tout d'un coup, il y a un soldat qui court et qui dit au commandant de l'armée, l'ennemi s'apprête, il va bientôt attaquer. Et donc, le commandant dit à tout le monde, vigilance maximum, préparez-vous, l'ennemi arrive. un deuxième soldat court et arrive. L'ennemi est au repos. Et le commandant de l'armée dit à tout le monde, à vos aises, repos, l'ennemi n'est pas encore en train d'attaquer. Et tout le monde se relâche et l'ennemi attaque. Et le premier soldat a couru en vain. Il a dit la vérité, mais il a couru en vain. Vous savez quelle est la plus grande hontise de vos pasteurs, de vos anciens, de vos responsables? C'est de courir, de travailler en vain. Nous sommes appelés à obéir pour valider le ministère de ce que Dieu a placé au-dessus de nous dans le Seigneur. Oh, mais Paul ne termine pas là. Il termine là où je vais terminer. Verset 17. Et même si je cède libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Il parle donc de libation. C'est quoi la libation? Alors vous lirez pour vous-même à la maison. Exode 29, les versets 38 à 41. Mais il y avait donc en Israël tous les matins et tous les soirs un sacrifice, un agneau qui était sacrifié. Et pour agrémenter l'odeur de ce sacrifice, on versait sur ce sacrifice 1,5 litre de Beaujolais. Bordeaux, si vous voulez. Mais en tout cas, il y avait le sacrifice, l'agneau qui était immolé, et puis on versait dessus pour agrémenter l'odeur de ce sacrifice 1,5 litre de vin. La libation n'est pas le sacrifice. La libation, c'est ce qui est versé sur le sacrifice pour agrémenter son odeur. Et Paul dit, à l'église de Philippe, Paul dit, moi, je suis la libation. C'est vous, église de Philippe, qui êtes le sacrifice. Moi, je ne sers qu'agrémenter et augmenter votre sacrifice. Chers anciens, chers pasteurs, vous qui avez charge de l'Église de Christ, il faut aussi parfois que l'on puisse regarder cette Église et considérer que c'est elle qui offre le sacrifice de sa vie et vous êtes là dans votre rôle, libation. Vous êtes là pour agrémenter, augmenter l'odeur agréable de ce sacrifice. Mais l'obéissance doit être consentie par nous en tant qu'Église, parce que nous voulons valider le ministère de ce que Dieu a placé au-dessus de nous. Et je ne peux pas ne pas dire qu'après pratiquement 50 ans dans le ministère, j'ai vu trop de pasteurs, trop d'anciens, arriver au terme de leur service, usés, découragés, parce que constamment confrontés dans l'Église à de l'insoumission, murmures, disputes, l'obéissance est une manière de dire que nous sommes soumis à Dieu parce que nous sommes soumis à ce que Dieu a placé au-dessus de nous. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, continuez. Travaillez à votre salut en tant qu'Église. C'est lui qui vous donne le vouloir et le faire. Et c'est pour son plaisir. Plus que nous travaillons à notre salut en tant qu'Église, plus ça lui fait plaisir. Plus nous acceptons à ce que l'Esprit et la parole transforment notre vie pour que notre salut soit un salut incarné, plus ça lui fait plaisir. Faites-vous sans murmure, revendication. Authentifiez l'Évangile de par votre manière de vivre en tant que communauté, en démontrant qui est et comment est le Père, et en vivant des qualités de relation intègres, honnêtes, transparentes, vraies, que chacun dise la vérité à son prochain, mais de telle sorte que ceux qui observent du dehors disent « c'est vrai ». Et obéissez, frères et sœurs, parce que nous sommes appelés à vivre dans une relation avec ce que Dieu a placé au-dessus de nous, de telle sorte que le monde qui nous observe se rend compte que nous avons inversé le problème d'Adam et d'Ève. Parce que le problème d'Adam et d'Ève, le problème de nous tous, c'est que nous avons un mauvais rapport avec l'autorité. Et lorsque nous acceptons de valider le ministère que Dieu a placé au-dessus de nous, nous renversons la problématique d'Adam et d'Ève et nous démontrons qu'il y a un évangile, une bonne nouvelle. Oh, l'obéissance, c'est la conséquence juste d'une compréhension juste de l'évangile. Prions. Beaucoup plus facile, Seigneur, de parler de l'obéissance que d'entrer dans le processus. Il n'y a personne ici qui ne soit pas d'accord avec l'idée. Nous sommes tous acquis à cette notion d'obéissance. Nous te demandons de nous accorder la grâce de pouvoir entrer dans ce processus en tant que membre d'Église, avec les autres membres de l'Église, que nous ayons vraiment cette motivation de te plaire. Donne-nous, puisque nous ne sommes pas différents de l'Église de Philippe, donne-nous de pouvoir résoudre en notre sein tous les conflits ouverts qui existent, parce que nous nous rendons compte que c'est un déni de l'Évangile. Donne-nous de ne jamais travailler par nos propres intérêts, par rivalité. Donne-nous de pouvoir accepter qu'il y a des domaines où nous ne sommes pas tous d'accord, mais nous sommes tous attachés à ta parole et nous voulons converger vers l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donne-nous de vivre de manière authentique. Pour la gloire de ton nom. Amen.